Je garantis quand même que les participants qui sont de plus en plus nombreux, mon voisin m'a dit qu'on avait dépassé les 200. Je vous garantis qu'effectivement, quand vous êtes déplacé, vous aurez la parole. Donc, on va réserver suffisamment de temps là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous exprimer. Donc, sans grande transition, je crois que je vais passer la parole à Marc Kaczynski, qui est ingénieur centralin d'origine, mais qui est directeur aujourd'hui d'un établissement public foncier. Donc, il va, comme disent les économistes, il va nous parler du partage de la rente ricardienne qu'avait déjà pas mal introduite Nathalie. Merci.
Par ailleurs, économiste, puisque je ne me suis pas, entre guillemets, contenté d'une culture technique et où on apprend aussi la systémique, qui est une démarche importante quand on s'intéresse à la ville, mais je me suis intéressé effectivement à l'économie par les problèmes fonciers, de la rente foncière en particulier, ce qui, au cours d'une trajectoire au sein du ministère de l'Équipement, m'a amené à prendre la direction d'un établissement public foncier qui a été créé en 1990 dans le Nord-Pas-de-Calais pour la requalification des friches industrielles, pour le recyclage des espaces urbains dégradés, pour le traitement des sols pollués, pour la mise en œuvre des trames bleues, trames vertes dont on a bien besoin dans notre espace industrialisé où on n'a que 7% d'espace boisé alors que la moyenne nationale est de 27. Voilà. Et donc ça c'est mon entre guillemets background professionnel. J'ai un autre point d'où je parle qui est l'association études foncières. Je suis président de cette association qui édite depuis une trentaine d'années maintenant une revue spécialisée sur les questions foncières appréhendées en termes interdisciplinaires, transversales, d'une part entre universitaires et d'autre part au point de rencontre de préoccupations de praticiens du secteur public et du secteur privé et effectivement de ce monde de la recherche. Et Dieu sait que l'on a des choses à se raconter, et notamment sur la question du périurbain, puisque ville durable et périurbain, les choses sont liées. Je m'autorise à vous dire que le 19 novembre, vendredi prochain, à Paris, se tiendra notre colloque qui s'appelle tout simplement « Repenser le périurbain, le foncier au cœur des enjeux ». Voilà, et donc ça peut faire une transition, effectivement, avec notre sujet sur le foncier, dire aussi que j'ai beaucoup apprécié le compte pour introduire notre propos. Je le trouvais très économe en foncier. Alors par contre, qu'est-ce que l'on fait du foncier que l'on a économisé quand on a bâti sur 1000 étages? Ça, c'est une autre question qui renvoie peut-être effectivement au rapport foncier-nature, ville-nature, société-nature, qui est un point très important. Il y a un terme que l'on n'a pas utilisé encore, qui est biodiversité, qui me semble aussi au cœur de ces sujets. Alors moi, je ne vais pas revenir sur la place des questions foncières dans les questions d'aménagement du territoire depuis, on va dire au moins, la fin de la guerre, la reconstruction, l'intervention de l'État de façon massive à partir des années 68, en matière d'organisation de la croissance urbaine au service du développement économique, et c'était d'abord ça, et il a mis en place des outils juridiques de contrôle des prix, de maîtrise du foncier de façon étatique et unilatérale, qui a permis effectivement de construire des logements, des grands ensembles, des infrastructures, des zones d'activité, etc. Et puis d'avoir à les gérer aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les modèles que l'on a utilisés à cette époque-là ont posé des problèmes, au point que les habitants sont partis sur les périphéries, ils se sont autonomisés de la ville, ils sont partis rechercher un autre équilibre, et ce qui explique cette croissance du périurbain. Et donc, le périurbain, il s'est fait sur du foncier aussi, du foncier qui était convoité d'une part par les utilisateurs historiques traditionnels, les agriculteurs, et d'autre part par les nouveaux urbains, qui arrivent avec des pouvoirs d'achat supérieurs, et donc ils peuvent acheter plus cher le foncier. Ça réenchérit les fonciers périphériques, ça se répercute sur les fonciers centraux, et les voilà embarqués, je dirais, dans une logique inflationniste, entre guillemets, où les valeurs foncières s'élèvent et deviennent à un moment donné un vrai problème pour le développement de la ville. Puisque la question, c'est de savoir, au fond, comment les utilisateurs de la ville, quel niveau de foncier ou d'immobilier peuvent-ils s'autoriser à payer. Donc, Ce qui me paraît important, si je reviens à cette question ville durable et question foncière, c'est de resituer ces questions foncières par rapport à une ville durable sur lequel c'est vrai qu'on peut s'interroger quant aux représentations que l'on se fait. Il y a représentation et fonctionnement. Par rapport à ce que j'ai entendu, moi je la vois quand même dense mais conviviale. Je la vois minérale mais siège de biodiversité. Je la vois économe en énergie, bien sûr, et en déplacement. Je la vois gestionnaire avisé de ses déchets et capable de recycler son territoire. Alors, voilà, est-ce que ce qu'on s'est dit autour de la table correspond un petit peu à ça? Enfin, toujours est-il que si on veut resituer les questions foncières là-dedans, bon, on prend le triangle du développement durable, hein, on a assuré l'équité sociale, permettre le développement, gérer les ressources naturelles, protéger l'environnement, on prend le foncier, on est au milieu et on regarde ce qui se passe. Que se passe-t-il? Ben, on constate, bien sûr, le foncier est une ressource naturelle, il faut le protéger, il faut maintenir sa biodiversité, il faut le recycler, il faut lui permettre effectivement une traçabilité aussi, pour savoir ce que l'on peut en faire quand il a des contraintes historiques, genre sol pollué, etc. Donc, il faut procéder à une gestion économe du foncier en tant que ressource naturelle. C'est un facteur de développement. On a besoin de foncier pour produire. C'est un facteur de production. Il y a le capital, le travail, la terre. On s'installe quelque part, on produit, on fait des zones d'activité. On a besoin aussi de loger les gens qui produisent dans les usines. Donc, c'est aussi le foncier de l'habitat est aussi un foncier du développement. Et donc, on a besoin de ça et on en a besoin comme facteur de production à des coûts qui soient compatibles avec l'économie de ce qu'on produit. Donc on voit bien que le prix du foncier qu'on va payer, il va avoir une répercussion sur la capacité de produire sur le territoire ou vivre sur le territoire. Et ensuite, le foncier est un rapport social. C'est par la propriété un lien que l'on a ensemble, entre nous, entre individus, entre collectivités. Et ce lien, il se traduit sur l'espace. Vous avez des droits, vous êtes protégé quand vous êtes chez vous. C'est un point important. Et ceux qui ne sont pas chez soi ne sont pas protégés. Ceux qui sont propriétaires sont mieux ou plus protégés que ceux qui sont locataires. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de questions liées au fait que ce rapport social induit, quand on le projette sur l'espace, des ségrégations d'usage et des ségrégations sociales. Et donc, quand vous prenez ces trois éléments, donc il faut effectivement assurer le foncier, il faut le protéger, il faut le recycler, il faut qu'il y en ait suffisamment pour le développement économique, et il faut ensuite qu'il ne génère pas des inégalités sociales inacceptables, donc ben, il faut s'en occuper. On ne peut pas laisser le marché faire la simple régulation dont on voit, en écoutant les propos autour de la table, que les marchés vont tendre vers des concentrations où les rentes foncières vont s'élever de plus en plus, et où, effectivement, ces questions de régulation ne pourront pas être assumées. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces politiques foncières. Je vais dire qu'il y a deux enjeux. Alors, on peut avoir des politiques foncières thématiques. Le foncier du logement, le foncier de l'environnement, le foncier de la santé, etc., etc. Et puis, chercher à mettre tout ça en cohérence sur un territoire. On fait des schémas de cohérence territoriaux pour se le faire. Ou alors, on peut avoir une ambition plus importante, qui est de réguler, c'est-à-dire que la puissance publique participe à la régulation de ce que le marché ou dérégule ou n'assume pas. Et donc là, il faut des moyens beaucoup plus importants pour réguler. C'est-à-dire qu'il faut non seulement réguler par le droit du sol, les documents d'urbanisme, ce qu'on a le droit de faire, pas ce qu'on n'a pas le droit de faire, il faut réguler aussi par l'action foncière directe. Et c'est un des enjeux aussi de cette régulation du foncier. Une ville durable, c'est une ville qui gère son foncier. Si elle ne gère pas son foncier, c'est cuit. Disons que c'est cuit. Alors, pour gérer le foncier, il faut effectivement des moyens publics qui soient organisés à la bonne échelle. Moi, les enjeux de l'intercommunalité par rapport à l'émiettement communal des décisions ou par rapport à l'émiettement des décisions du marché, ça nécessite que l'on trouve des lieux structurés pour pouvoir appréhender ces questions de façon globale, au moins sur un territoire, comme une communauté urbaine, une région, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, il faut qu'il y ait des ressources financières pérennes qui soient affectées à ces politiques-là. Et notamment, la taxation de la propriété, c'est peut-être un propos à contre-courant, mais que les gens qui sont propriétaires, habitants, locataires sur un territoire, au fond, participent financièrement à la bonne gestion de ce territoire et qu'en plus, cette fiscalité soit une fiscalité équitable. Merci.
Le piètre économiste que je suis croyait que la question foncière était une juste question de partage de la rente, mais je constate qu'il y a un rapport social dans le foncier, c'est vrai que je découvre, et c'est vrai que c'est très rafraîchissant, merci. Donc notre dernier intervenant, c'est Bruno Werber, qui est spécialiste des questions de logement et directeur commercial du groupe Nordpac. Et qui, après le foncier, on va s'intéresser évidemment au bâti, à l'organisation du bâti.
Merci Alain. Simplement, je m'étais posé la question de partager le parterre de tous ces orateurs. Mais ils ont un rêve. Ils ont tous un rêve. Nous avons tous un rêve, c'est de construire la ville. Néanmoins, quand on est constructeur, à un moment donné, il faut basculer dans la réalité. Il faut vivre les rêves. Donc, tous ces rêves que vous venez d'évoquer, messieurs, mesdames, à un moment donné, ça devient des contraintes lorsqu'on passe dans le mode action. Parce qu'il faut gérer l'eau, il faut gérer la mixité sociale. Tout ça, moi qui ai fait 15 ans de ma vie dans un autre pays qui est la Belgique, un pays très pragmatique, pas d'État, depuis un certain temps, et pourtant ça fonctionne. En France, vous avez entendu tous ces orateurs parler de planification. De l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de planification. C'est l'occasion qui fait le larron. Alors je vous invite, moi qui suis passionné de BD, à aller consulter une bande dessinée de Shelton et Peters dans la série Les Cités Obscures et c'est Bruxelles. Allez voir, c'est un promoteur qui a un rêve extraordinaire. Vous allez comprendre que aussi dans certains esprits privés, on peut travailler de manière sympathique. Alors simplement, pour évoquer quelques contraintes, je vais aller très vite, parce que c'est une vraie réalité technique, c'est qu'aujourd'hui, on est des mauvais élèves dans le monde de la construction. Les bâtiments, c'est la deuxième source d'émissions de CO2. 25% à peu près, voyez. Et de l'autre côté, les bâtiments, en France, c'est 46% de la consommation d'énergie. Ça, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Alors, on a un certain nombre de contraintes avec le Grenelle de l'environnement. Retenons qu'aujourd'hui, les bâtiments consomment de l'énergie. L'objectif qu'on se fixe, vous voyez, je vais être très basique. Il faut que tous les bâtiments soient énergie positive, le plus vite possible. Encore faut-il que la contrainte économique puisse rejoindre cette contrainte technique. Alors, on verra. Il y a un certain nombre de sujets par rapport à ça. C'est si financièrement, moi je retiens ce chiffre-là, retenez-le, parce qu'effectivement il faut rentrer dans la contrainte économique, on réhabilite 1%, entre 1 et 2% du parc de bâtiments partout en Europe. Ça veut dire qu'il faudra au minimum 50 ans pour que tous les bâtiments soient réhabilités sur une base d'énergie positive. Encore faut-il trouver le financement pour les 50 prochaines années. Ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors c'est, je crois, le plus important, ce que vous allez voir là. La première chose, vous voyez, on a parlé de planification, nous on parle de programmation. Plus tous les acteurs seront en situation de concertation, mieux ça se passera. Parce que chacun d'entre nous a une vision particulière de son projet. Lorsque vous êtes sur le port de Calais, par exemple, eh ben, il y a le côtier d'Oie juste à côté, et vous avez plein de gens qui, dans le cadre de l'enquête publique, vous parlent de certaines espèces d'oiseaux à protéger. Je peux vous dire que la première fois que vous rencontrez ces gens, en tant que constructeur, vous dites « Oh là là, ça va, on ne va pas y arriver ». Et pourtant, ils ont de réelles bonnes raisons à préserver le côtier d'Oie. Donc je crois que c'est un vrai travail de programmation et de concertation qu'il faut qu'on mène. Deuxième élément important, c'est la partie de conception. Très clairement, si on n'est pas associé très tôt, on va faire des produits, on répond à une question. Et je crois que vous avez tous connu dans la vie, lorsqu'on vous pose une question fermée, votre réponse est idiote. Lorsqu'on vous pose une question ouverte, vous amenez de l'énergie, de la matière grise à la question posée. Je crois que c'est, retenez ça, le job, c'est la réduction des impacts du chantier. Nous, on est aujourd'hui en train de trier sur les chantiers, je ne sais pas si vous connaissez l'expression cradle to cradle, du berceau au berceau. Ben, il y a un certain nombre de produits sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, idée complètement magique, on est en train de travailler sur un produit textile où l'hiver, vous avez froid, vous mettez un pull au vert. Pourquoi on ne mettrait pas à certains bâtiments un pull au vert qu'on puisse enlever lorsqu'il fait un peu plus chaud? Voilà, c'est ça, innover dans la construction. Je ne dis pas qu'on va y réussir, mais aujourd'hui, on travaille avec des universitaires sur ce type de produit. En disant, mais tout compte fait, on n'a peut-être pas la bonne solution tout de suite. À 5 ans, est-ce que l'isolant, est-ce que le chanvre sera le bon isolant? On ne sait pas. Néanmoins, on peut travailler ensemble pour trouver des solutions ou des situations transitoires qui sont importantes. Moi, je retiens aussi, pour parler d'exploitation, de précarité énergétique. On ne sait pas ce que ça vaudra demain. Donc, si on peut travailler en coût global, en ayant des bâtiments basse énergie, sans consommation particulière, ben, on aura tous gagné, parce qu'on n'aura plus cette partie de dépenses à prendre en compte. Alors, simplement, nous, on a travaillé sur un questionnaire, on appelle ça projection, parce qu'on s'est aperçu que derrière les mêmes mots, on ne mettait pas les mêmes notions. Ça, c'est un élément déterminant. Et chacun ses propres priorités. Peut-être que quelqu'un veut travailler surtout sur la mobilité, quelqu'un d'autre voudra travailler sur l'énergie. Donc, très clairement, on n'est pas capable de répondre à toutes les questions en même temps, ou en tout cas pas avec le même degré d'urgence et de priorité. Donc simplement pour nous, c'est une manière de rebalayer un certain nombre de problématiques et d'être bien sûr qu'on répond bien aux soucis du maître d'ouvrage. Alors, très clairement, je vais aller très vite, c'est-à-dire que dans notre métier, on dit le fameux cordonnier, c'est le plus mal chaussé, mais nous on a décidé de faire le contraire sur un certain nombre de nos bâtiments, parce que je crois que c'est un élément important. Donc là, ETDE, c'est notre filière électricité. Challenger a été complètement aujourd'hui revampé. Vous voyez, on a divisé nos consommations d'énergie par 10. C'est quand même un élément important. Réduire les impacts des chantiers, j'irai très vite vers ce genre de choses. La ville durable. Alors, les principes sont assez simples. Qu'est-ce qu'un logement durable? Je vais vous donner 5 critères. Une architecture bioclimatique, ça paraît tellement évident, et une isolation renforcée. Je vous rappelle qu'on n'a rien inventé, les cathédrales, c'était déjà le cas. Regardez la taille des murs des cathédrales il y a 700-800 ans, ça faisait 80 cm, donc il y avait déjà un certain nombre de sujets thermiques pris en compte. Deuxième chose, l'utilisation optimisée et raisonnée des ressources. Troisième chose, et on n'en a pas du tout parlé, c'est la ventilation des espaces. À avoir le confort, l'air, quand on parlait de ressources, l'air et l'eau sont les deux ressources importantes. Le choix des matériaux à faible impact environnemental, on revient à la terre cuite par exemple. Bon, encore faut-il la faire cuire, mais on va y arriver. Et dernière chose, l'intégration des énergies renouvelables. Alors, un cas de figure très simple, c'est les écoquartiers. Bon, ben, on a le cas ici au Val-de-Reuil, où tout simplement... on parle de ville dense et de ville intense. Bon, combien on met de logements à l'hectare? 1000 m2, c'est 10 logements à l'hectare. 500 m2 de terrain, c'est 20 logements à l'hectare. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est la concertation, c'est la discussion avec les différents interlocuteurs qui permet de gérer ce genre de choses. En tout cas, retenez que sur les écoquartiers, c'est un vrai sujet de concertation. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. J'aimerais, lorsqu'on dépose un permis, lorsqu'on fait une enquête publique, que nous soyons autant en concertation. Parce que c'est projet. L'élu, il a une envie, il a un désir, il a des contraintes. Les citoyens, vous avez le devoir d'améliorer le produit. Et nous, on est, en tant que constructeur, au service des rêves, des idées. Il faut qu'on bascule dans la réalité. Il faut que pour nos enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, on n'ait pas un certain nombre de villes en rue avec quelques blocs assez extraordinaires dont on fait demi-tour lorsqu'on les regarde, parce qu'on n'est pas très fiers de ce que l'on a fait. Et aujourd'hui, la ville durable, c'est que dans 30 ans ou dans 40 ans, lorsque nos enfants et nos petits-enfants seront en face de nos choix, et bien, ils puissent dire qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Ça serait déjà pas mal. Voilà.
Merci. Bien, on a déjà un témoin qui est dans la salle, un témoin représentant des générations futures. Bonjour. Et maintenant, nous allons essayer de partager le rêve donc avec vous. Espérons que nous pourrons construire ce rêve ensemble. Donc, on va prendre une première série de questions. Jusqu'au bout, voilà. Donc, on a une première question par là. Je ne sais pas s'il y a les micros. Il y a la dame qui est...
J'ai deux questions à poser. Une d'abord à M. Raoul par rapport à la question de l'optimum de la densité. Vous avez dit Paris l'a dépassé, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Et j'ai une seconde question à M. Verber à propos de la maison passive. Alors certes, passive en termes d'énergie consommée, mais qu'en est-il en termes des produits, des matériaux de la construction et de leur impact par rapport, par exemple, avec des bois qui peuvent être... amenés de fort loin, notamment des pays scandinaves.
Merci. D'autres questions? Il y a une question tout au fond.
Bonjour, merci pour vos interventions. Frédéric Espinoza, bien du Nord-Isère. Une question, en fait, je vous demande de réagir à ce qui se passe à Détroit, une ville... frappée par la désindustrialisation, qui a perdu une partie non négligeable de sa population, et où ceux qui restent sont les plus pauvres, ou ceux qui ont le moins de mobilité possible à l'échelle du territoire fédéral. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, et si vous en avez, qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Merci. On va prendre, il y a une question là, et puis la question de Michel Charpin. On va prendre la question de madame.
Marie-Josée Chacon, enseignante. Je voulais, quand on voit que de rénover 1% des bâtiments dans l'Union européenne peut prendre des dizaines d'années, est-ce que ce n'est pas un rêve, la ville durable pour nous dans les pays développés? Et qu'en est-il des pays en voie de développement? Est-ce que c'est un rêve également pour eux?
Merci. Donc Jean-Michel Charpin.
Oui, merci. J'étais très intéressé par l'introduction de Michel Lussault sur la résilience de ces systèmes très complexes que sont les systèmes urbains, la résistance aux chocs, la résistance aux évolutions adverses, la résistance aux pannes, quoi, fondamentalement, à la fois d'une façon passive pour en souffrir le moins possible, un peu comme à Paris, on se prémunit contre les crues centennales, mais plus profondément, de façon dynamique, de façon active, par l'auto-organisation qui permet à la fois de réagir à la panne et de s'auto-organiser pour l'éviter dans l'avenir. Tout ceci faisait furieusement penser aux discussions que les économistes, par exemple hier, ont eues à de multiples reprises en matière économique et financière, en distinguant, dans le langage des économistes, le risque microéconomique et le risque systémique. Alors en matière urbaine, on se dit que le risque microéconomique doit être pris en charge, doit bien avoir des gens qui s'occupent de gérer le risque des systèmes de transport à la RATP ou sur la voirie, le risque d'approvisionnement alimentaire, enfin, on s'imagine que tous ces risques doivent être pris en charge, le risque de sécurité, le risque social, Je me demandais, et je voulais poser la question surtout à Michel Luçon, mais peut-être à Emmanuel Raoul aussi, dans le domaine urbain, qui étudie le risque systémique et qui le prend en charge fondamentalement, donc le risque systémique, c'est-à-dire qui est différent de la somme des risques microéconomiques parce qu'il prend en compte les interactions.
On va peut-être répondre à cette première série-là. J'ai retenu qu'il y avait deux, trois personnes qui avaient déjà levé la main, on serait prioritaire pour la deuxième série. Donc on va commencer, on va organiser peut-être Emmanuel, tu vas commencer les réponses, puisque tu avais quelques-unes qui t'ont été directement posées.
Oui, alors en fait, la question sur l'optimum de densité de Paris et la question de Jean-Michel Charpin sur le risque systémique se ressemblent quand même assez farouchement, ou en tout cas ont des points d'application communs. Tout d'abord sur la question de la densité, par exemple dans Paris, vous savez que Paris est en fait la ville la plus dense en Europe, avec en position 2 la ville d'Athènes. Lorsque l'on regarde des indicateurs pour se dire est-ce que nous arrivons aujourd'hui à gérer cette densité, les indicateurs sont des indicateurs très classiques de congestion, de risque opérationnel sur les réseaux, risque opérationnel en particulier sur les réseaux de transport. On note aujourd'hui, il y a, vous savez, une loi sur le Grand Paris qui a proposé des investissements futurs en matière de transport, qui montre bien que, je ne vais pas du tout dire si ceci traite ou ne traite pas ces questions, mais en tout cas que c'est un sujet tout à fait majeur. Et ce que l'on voit bien lorsque l'on est habitant d'une ville comme celle-là, c'est que, oui, on a le sentiment que les impacts, ou les conditions plutôt, de cette densité ne sont pas gérées complètement. Et alors justement, ça m'amène à la question de Jean-Michel Charpin pour donner une réponse plutôt inquiétante, en fait. C'est-à-dire que oui, bien entendu, les risques microéconomiques sont pris en compte par chaque acteur responsable de tel ou tel réseau, de telle ou telle partie du système. Oui, bien entendu. Oui, bien entendu, il y a des plans qui sont mis en place, que ce soit pour une crue de la Seine, que ce soit pour un incident majeur dans le métropolitain, je continue sur mon exemple parisien, etc., etc. Par contre, est-ce que le risque systémique est véritablement pris en compte? Et ce risque systémique, bien entendu, il est rendu infiniment plus complexe par la densité. C'est-à-dire que plus vous avez une densité élevée, et plus les effets de système deviennent importants. C'est même quelque chose qui est probablement exponentiel. Et donc, de ce point de vue, je posais la question à un récent comité d'orientation du PUCA, où il y avait présent un représentant de la Direction générale des risques, qui est donc normalement l'organisme d'État chargé de réguler ce type de questions. Et la réponse était, oui, c'est une bonne question, mais aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. Donc c'est clairement un champ de travail et de réflexion, en tout cas en France, je ne connais pas la situation dans d'autres pays, mais clairement en France, c'est un champ qui s'ouvre à nous.
Merci. Donc, Marc-Alizé sur Détroit.
Oui, sur Détroit, au fond, c'est le paradigme de toutes les villes industrielles dont on peut avoir envie ou pas de les réinvestir. Donc toutes les stratégies que l'on a connues en France dans les régions industrielles, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, etc., ont été l'expression d'une volonté politique de reconquérir des espaces industriels et des villes industrielles en leur donnant un autre avenir. C'est notre culture française, européenne parce que les Allemands font la même chose, les Polonais ont envie de faire aussi la même chose, etc., et les Britanniques aussi, il n'est pas dit que les Américains du Nord aient envie, aient un rapport à leur ville qui soit de la même nature que le nôtre. Alors, il y a eu effectivement des reconquêtes urbaines qui ont été menées sur un certain nombre de villes américaines, mais la question sous-jacente, c'est au fond... nous avons, dans notre discussion d'aujourd'hui, nous sommes partis de l'hypothèse que la ville durable du futur, elle partait de la ville d'aujourd'hui. Et c'était une sorte de mutation de la ville d'aujourd'hui. Et que la question, c'était comment on construit le cheminement pour partir des problèmes que l'on voit aujourd'hui pour arriver aux solutions que l'on imagine demain. La discussion qu'on vient d'avoir sur le périurbain laissera penser que, au fond, si on ne la faisait pas sur la ville d'aujourd'hui, mais qu'on allait s'installer à côté, peut-être que ça serait plus facile. Et donc, et moi, avec mon foncier, je me dis, non, je pense qu'il faut plutôt la faire sur la ville d'aujourd'hui. Et donc, le débat de Détroit, c'est certainement un débat de cette nature-là. C'est sur quoi veut-on reconstruire la ville durable de demain ? Merci.
Je voudrais rajouter quelque chose sur Détroit, parce qu'on a mis en avant dans cette catastrophe foncière immobilière qu'est Détroit aujourd'hui, cette entreprise de désindustrialisation, le fait que beaucoup de ces terrains ont été convertis en jardins, d'une certaine manière, c'est-à-dire en agriculture urbaine. Alors je poserai la question de savoir, dans cette difficulté que traverse Détroit, c'est qui est capable de reconvertir cette reconquête urbaine, qui l'opère ? En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, ou ce qui semble, bien que quand on va à Détroit, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, je n'ai pas trouvé ces jardins, je n'ai pas trouvé cette agriculture urbaine, peut-être que j'ai mal cherché, mais la question c'est qui va reconvertir ce foncier en déshérence, à quel prix, pour qui ? Et il y a le film qui a récemment été sur les écrans, qui s'appelle Cleveland contre Wall Street, je crois, qui montre que finalement la ville, la ville de Cleveland, là dans le cas, se trouve à payer le fait de cette faillite de l'immobilier. Donc c'est qui la reconquête urbaine ? Quels sont les acteurs et à quel coût ? Je veux dire, je pense que là, on ne peut pas parler de processus abstrait. On doit parler de processus qui sont enracinés dans des conduites d'acteurs avec des prix qui leur sont imposés. Et par rapport au risque systémique dont parlait Emmanuel Raoult, je crois que c'est vrai que je ne suis pas d'accord sur le fait que la densité est forcément liée au risque systémique. Par exemple, on voit bien que, je renvoie à un ouvrage tout à fait brillant de Jeff Brugman, qui dirige un grand réseau qui a beaucoup aidé vers la ville durable, qui s'appelle New Revolution Urban, Urban Revolution, et qui montre que les slums, donc les bidonvilles, qui sont extrêmement denses, ne sont d'abord des lieux où se génèrent beaucoup de richesses en termes d'activité économique, du fait même de la densité, de la proximité, qui sont quand même l'avantage urbain, densité et proximité, et que ce n'est pas là, dans ces endroits-là, que se génère le risque systémique. Donc je ne suis pas sûre que densité, et il faudrait en faire la démonstration, la preuve, voilà, pour montrer que ce n'est pas forcément équivalent à un risque systémique.
Très bien. Donc,
alors moi, j'étais interrogé sur la notion du bois. Au même titre que, en consommation, vous êtes capable de tracer l'origine de votre produit qui est dans votre assiette, je vois vraiment pas comment on ne pourrait pas faire la même chose avec le bois, en identifiant son origine. Néanmoins, ça permet de rebondir sur le foncier, parce qu'il faudra redédier la contrainte du Grenelle, c'est que, je pense, c'est 30% de bois dans le dispositif. Il faudra redédier un certain nombre de fonciers pour aller y remettre du bois, pour qu'on puisse gérer cette proximité. Donc, c'est tout compte fait plus qu'intéressant. D'un côté, je pense qu'on est tout à fait capable de tracer l'origine du produit. Par ailleurs, on a une possibilité de reconvertir un certain nombre de fonciers pour réactiver une nouvelle filière ou régénérer une filière qui est la filière bois. Je crois que ça, c'est un deuxième élément. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque j'ai essayé d'être dans la réalité, moi j'ai plein de rêves par rapport aux nouveaux matériaux, parce qu'on ne sait pas du tout quels vont être les nouveaux matériaux de demain non plus. Donc peut-être que des nouvelles filières, des fonciers, je vais vous donner une hérésie là, pour rebondir sur Détroit. Peut-être que dans certaines friches industrielles, on va trouver certains matériaux des déchets qui pourraient devenir nos matériaux de construction de demain. Voilà, donc c'est le job de l'innovation des constructeurs de trouver des solutions pour participer à la reconversion de villes et de fonciers.
Oui, alors deux remarques. D'abord, concernant Détroit, je crois qu'on a du mal à imaginer en France ce qu'a vécu Détroit. Un article d'un géographe français qui enseigne à Genève, et Jean-François Stazac, s'était intitulé dans les années 90 « Détruire Détroit », où il analysait la manière dont il y avait un phénomène quasiment d'autodestruction de cette grande cité industrielle, qui a fait que la population de Détroit est passée en 40 ans de 3 millions d'habitants à moins d'un million aujourd'hui.
Je crois qu'on a du mal à imaginer ce que ça signifie. Il y a un concept de géographie britannique qui s'appelle le concept de shrinking cities, hein, des villes en disparition. Détroit en est une. C'est quelque chose qui est assez poignant quand on a la chance de simplement passer à Détroit. Et on est vraiment dans une situation où il y a des abandons à une échelle qu'on ne peut pas imaginer en France, des abandons de quartiers urbains extrêmement vastes, hein, 2 millions d'habitants perdus. Ce qui explique que le maire actuel de Détroit vient de lancer, il y a quelques semaines, je crois que c'était en avril ou en mai 2010, je ne me souviens plus exactement, un nouveau plan de renouvellement urbain, dont l'objectif est de détruire en quelques mois 3000 immeubles. 3000 immeubles vont être détruits dans des... Là, on n'est pas à 1% de réhabilitation énergétique, on est dans la destruction du parc immobilier, essentiellement d'ailleurs dans les quartiers centraux, les anciens quartiers noirs, les anciens quartiers du ghetto noir, qui se vide lui-même. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un appauvrissement de la population, il y a vraiment une disparition de la population. Et les actuels soubresauts de l'économie américaine ont ruiné les quelques espérances de renouveau industriel de Détroit. Et ce plan est très contesté par ce qu'on appelle les activistes aux États-Unis, c'est-à-dire essentiellement par les membres de groupes communautaires qui essaient de maintenir à Détroit une sorte de flamme, parce que Détroit est une ville qui a eu beaucoup d'importance dans l'histoire américaine, hein, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire culturelle, et ces activistes contestent beaucoup ce plan fondé sur la destruction, et Nathalie Blanc y a fait allusion. Qu'est-ce qu'on met à la place? Mais rien. C'est-à-dire des jardins dans le meilleur des cas, mais souvent simplement, un peu ce qu'on a fait dans les grandes zones sidérurgiques dans les années 1980 en France, en Belgique, en Allemagne, quand on n'avait pas les capitaux pour investir dans le développement, on faisait ce qu'on appelait du verdissement. C'est-à-dire on rasait les usines et puis on mettait de la pelouse, quoi. Ben, à Détroit, on en est arrivé presque à faire ça dans certaines zones. C'est un cas absolument incroyable. Bah, qui montre que les grandes organisations urbaines sont périssables et qui nous renvoie à la question sur le système urbain, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Détroit? Mais c'est une ville dont c'est un système urbain qui s'est complètement grippé, c'est-à-dire qui n'a eu aucune résistance à l'endommagement. Et tout est parti en quenouille, quoi, c'est-à-dire, et tout s'est auto-entretenu. Alors, ça n'empêche qu'on peut répondre à la question de Jean-Michel Charpin de manière extrêmement prudente. Les risques microéconomiques sont assumés, a dit Emmanuel. J'aimerais partager ton optimisme, Emmanuel. Ça serait déjà bien s'ils l'étaient. Ils le sont peut-être en France, mais n'oublions pas que nous sommes dans un îlot assez particulier d'urbanisation dans le vaste monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'endroits où les risques microéconomiques ne sont absolument pas assumés, en tout cas pas explicitement assumés par qui que ce soit. Donc l'urbanisation mondiale, c'est une urbanisation de plus en plus asiatique, africaine, de moins en moins nord-européenne. Et américaine. Donc nous avons quand même des situations urbaines où s'accumule de la puissance, mais où s'accumule aussi, encore une fois, de la vulnérabilité, sans même que la microéconomie, enfin les coûts microéconomiques de structure, soient assumés par une puissance publique. Alors on a des formes d'auto-organisation dans les bidonvilles qui sont, de ce point de vue-là, des espaces très paradoxaux, parce qu'évidemment ils apparaissent pour nous complètement répulsifs, mais en même temps, vu de l'intérieur, dans certains contextes socioculturels et politiques, ce sont des espaces sociaux créatifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils trouvent des solutions, y compris microéconomiques, pour solvabiliser un certain nombre de fonctionnements, d'où un certain embarras, hein, qu'on peut avoir. Quant au risque systémique, je vois mon voisin qui s'affole, quant au risque systémique, ça c'est le risque systémique de la prise de parole, je serais tenté de dire à Jean-Michel Charpin, encore faudrait-il déjà qu'on soit capable de comprendre les systèmes urbains. J'étais très frappé d'une petite image que mon voisin de gauche a montrée sur la construction durable. Vous avez vu à quelle échelle il a montré cette image, hein? C'est quelques bâtiments, à peine un îlot, à peine un quartier. On a déjà du mal à comprendre ce que peut être, par exemple, un système urbain durable à l'échelle du quartier. C'est déjà très compliqué. Mais à l'échelle urbaine, tout simplement, personne n'est capable de le faire. Donc, on en est simplement au moment où on essaye de crédibiliser l'idée qu'on pourrait aborder l'urbain comme système fragile et vulnérable et donc essayer de comprendre ce que sont les crises systémiques. Et si je reviens à Détroit, du coup, moi, je milite pour qu'on documente bien l'évolution de Détroit parce que c'est un des exemples intéressants qui nous permettrait de progresser dans la compréhension de ce qui peut nous attendre dans certaines circonstances.
Bien, merci. Il nous reste exactement une minute. Et j'ai 3-4 questions. Ce qu'on va faire, quand vous êtes quand même déplacé, donc on va prendre les questions. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'y répondre, mais au moins on va vous donner la parole. J'ai une question ici, une question là-bas. Si vous pouvez faire très rapidement.
Merci. Bernard Léon, Association française des ingénieurs de l'environnement. J'interviens très rapidement, puisqu'on n'a pas de temps, pour poser une question un peu volontairement provocatrice. On a parlé beaucoup d'économie et on constate que durant les 35 dernières années, on est arrivé par la crise à l'échec total des économistes. Je me pose la question au point de vue des urbanismes. N'est-on pas, au cours des 35 dernières années, n'a-t-on pas vécu l'échec total des urbanistes? Parce que si je vois, habitant lyonnais d'origine, mais habitant la région parisienne, si je vois la ville de Paris, quelle a été l'évolution de Paris sur les 300-400 dernières années? Je ne sais pas s'ils avaient des urbanistes, mais je sais que, apparemment, parce que j'en vois, ils ont maîtrisé leur extension. Quand on voit d'où est parti Paris, qui a absorbé constamment les villages, donc ils ont pu gérer leur périphérie. Pourquoi, depuis 35 ans, n'a-t-on pas été capable de gérer l'extension de la ville en gérant l'extension des périphéries, qui pour moi est un échec global? Et je m'en tiendrai à ça.
Okay. Et c'est peut-être en référence à cela que Emmanuel Raoul disait que le périurbain est quelque chose de fondamental dans la gestion de la ville durable. Donc, et sur la première partie, sur l'échec total des économistes, on pourra en parler après.
Mais donc au colloque sur le périurbain.
Bonjour, j'habite dans une copropriété à Lyon.
Si vous pouvez vous présenter, on a un peu
de temps. Bruno Cornu, retraité, habitant de la France. Donc j'habite dans une copropriété. Je suis propriétaire de mon appartement. Je vais devoir rénover mon appartement pour qu'il soit conforme aux normes qui sont souhaitées. Ça va me coûter en gros 400 euros au mètre carré, dans les estimations qu'on peut faire assez rapidement. Est-ce que je ne pourrais pas vendre mon foncier et garder mon appartement? Quand j'avais cherché un appartement à Lyon, j'étais tombé une fois dans une visite. Le propriétaire m'a dit « Attention, votre appartement, vous l'achetez, mais le terrain appartient au HCL, aux Hospices Civils de Lyon. Est-ce que vendre mon foncier ne permettrait pas de rénover mon appartement ?»
Question importante, je crois que Marc Kaczynski va répondre.
Enfin, je ne vais pas vous apporter une réponse technique immédiate, mais au moins sur l'idée que vous exprimez, qui est liée au fait que je le disais tout à l'heure, il faut que la rente ou les niveaux de foncier d'immobilier soient compatibles avec l'activité et les pouvoirs d'achat des gens et des entreprises. Si on introduit des coûts supplémentaires pour rendre les bâtiments, la ville durable de façon générale, ces coûts, ou alors ils viennent s'ajouter, je dirais, aux valeurs existantes, et puis pèsent de plus en plus sur tous les gens qui travaillent et qui y habitent. Ou alors, ils se répercutent sur le foncier, c'est-à-dire qu'on s'autorise à se payer un foncier moins cher pour pouvoir rentrer les coûts en question entre nous deux. Et donc, ça pose vraiment la question des niveaux de rente foncière et peut-être de la dissociation entre la valeur de l'immobilier, la valeur du foncier. Vous êtes dans une ville où cette pratique existe, hein, il n'y en a pas beaucoup en France où cette dissociation est faite, et ça pourrait être un mode de régulation. Que finalement, ça soit sur le foncier qu'on régule les coûts économiques qu'il va falloir payer pour mettre à niveau les bâtiments.
Merci. Et pour vous remercier d'être venu, vous avez une minute pour faire la conclusion de la table ronde.
Excusez-moi, ce n'était pas pour conclusion.
Non, on attend une conclusion. Donc.
une ouverture, là. Joël Cérando, professeur d'économie en Bretagne. Dans les années 60 ou 70, autour de Paris et de Lyon aussi, on avait créé des villes nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a eu une réflexion menée sur ces villes nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des enseignements tirés? Est-ce que ça a été un échec? Ou est-ce qu'il y a des idées à reprendre?
Il Il y a eu effectivement tout à fait des gros travaux qui ont été faits sur ces villes nouvelles, avec un comité, y compris un comité d'histoire qui s'est penché sur la question. Donc vous pourrez trouver de nombreux rapports sur la question. Et bien entendu, oui, nous avons cherché à apprendre à partir de ces villes nouvelles qui ont à la fois ont été des succès sur certains points et des échecs aussi sur d'autres. Et on apprend aussi bien des succès que des échecs.
Merci. Donc j'espère que cette table ronde a permis de rendre, ne serait-ce que légèrement possible, les utopies. Nous vous remercions pour cela et merci beaucoup.